Et maintenant, un bon boîte de casse.
Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve une fois de plus avec Sophie Gravel, Sophie tout court. Bonjour Sophie.
Salut Nicolas.
Et aujourd'hui, après avoir un peu compris comment fonctionnait Philosophia, moi ce que je propose, c'est qu'on se penche un peu sur une des sorties qui vient d'avoir lieu, c'est-à-dire on parle de fin juillet et on parle de malédiction. Donc l'idée, c'est de parcourir le jeu, de découvrir le jeu avec toi et d'avoir ton point de vue, peut-être tes conseils et d'expliquer comment fonctionne le jeu. D'accord ?
Bien sûr.
Bien, alors, Malédiction est un jeu, donc le créateur c'est Andreas Pelikan, ou Pelikan.
Pelikan.
Je sais pas, Pelikan. C'est celui qui a fait Cache-Catch par exemple, ou qui a eu pas mal de succès. Cache-Catch c'était Fangfrisch en allemand.
Oui, je t'avoue que moi je l'ai connu, Andreas, avec le jeu Malédiction, qui s'appelle Zyverhext en allemand.
Ouais, tout à fait. Bon, la question qu'on se pose c'est quel est le but du jeu?
Bien sûr. Alors, outre gagner, le but du jeu, c'est de ramasser le plus de points possible. Et on ramasse des points en concoctant des potions à l'aide des ingrédients qui vont se trouver sur la table. Alors, les ingrédients sont des petites gouttes de venin, de toutes sortes d'affaires un peu maléfiques. Et il y en a des rouges, des blanches et des vertes. Et donc, on a différentes sortes de cartes. Alors, il y a des cartes qui vont aider à aller chercher ces ingrédients-là. Il y a des cartes qui vont aider à convertir ces ingrédients-là en potions. Et il y a des cartes aussi qui vont aider à aller chercher des livres. Et si tu veux agir un peu comme un pont entre ces éléments-là, il y a des pièces d'or. Alors, tu peux accumuler de l'or avec certains personnages que tu vas utiliser pour aller chercher des ingrédients qui, eux, vont t'amener à aller chercher des potions magiques. Bon, les petites éprouvettes sont, si tu veux, c'est des points bonus. Donc, à la fin de la partie, c'est celui qui aura ramassé le plus de points de potions et de livres qui aura gagné plus la valeur de ces petites éprouvettes. Donc, les éprouvettes sont des points bonus que tu peux ramasser au cours de la partie.
Alors, justement, la boîte, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a, en fait, principalement des cartes.
Oui.
Et on a des ingrédients qui vont permettre de faire, faire des tours de magie ou de lever des tours de magie, on va dire. Et donc, on a aussi des pièces d'or et on a aussi des éprouvettes.
Oui.
D'accord. Donc, tu disais tout à l'heure, on va recevoir chacun un paquet avec les mêmes magiciens.
Oui, tu peux jouer de 3 à 5 joueurs, donc il y a 5 decks de cartes qui sont identiques dans le jeu. Alors, tu choisis une couleur, tu prends ce deck-là en main. Tous les joueurs ont exactement les mêmes personnages avec les mêmes pouvoirs et la même faveur. À partir de ce deck-là, tu choisis de façon cachée 5 cartes sans les révéler. Une fois que tout le monde a fait ça, on commence à jouer. On va faire une manche et on va faire une carte. Une fois que la manche est terminée, on remet les cartes dans notre deck et pour la manche suivante, on rechoisit encore 5 cartes parmi toutes celles qui sont disponibles. Tu vois, nous, la première fois qu'on avait joué, on a mal joué. On a pris 5 cartes, on les a laissées de côté. Pour la deuxième manche, on a choisi 5 autres cartes. Alors que c'est pas ça. À chaque tour, on a la possibilité de choisir 5 cartes parmi toutes celles qui sont disponibles. Et donc, l'effet, si tu veux, ambiance dedans est mené beaucoup par le fait qu'il y a des noms. Alors, c'est une série de personnages que tu as dans les mains. Et chaque joueur a exactement les mêmes personnages avec les mêmes pouvoirs et les mêmes faveurs dans les mains. Et chaque personnage a un nom qui sonne un peu rigolo. Et qui donc, met beaucoup d'ambiance. Qui amène beaucoup d'ambiance dans le jeu. Par exemple, moi, personnellement, quand je suis assise à l'entour de la table et que je pose un personnage, je cherche toujours la version féminine de son nom. Alors, quand je joue Loupio, pour moi, c'est Loupiotte.
Ouais, logique.
Oui, très logique. Et donc, bon, tout ça fait créer des jeux de mots et c'est très drôle.
Alors, toutes les cartes sont structurées de la même façon. Donc on a une carte avec le nom d'un personnage, une illustration qui effectivement donne envie de jouer, plante très bien l'ambiance. Et on a pour chacun deux possibilités. Donc, alors comment se passe justement l'agencement de ces possibilités? Et finalement, c'est ça le mécanisme du jeu, c'est d'avoir deux possibilités, deux actions possibles par carte, et il y a une interaction qui se fait entre les joueurs.
Oui, allez, j'en sors une au hasard, ici c'est ma main, alors j'ai Alchimix. Et donc, j'ai Alchimix en main, c'est à moi à commencer, je pose Alchimix. Alors, je vais dire, je suis Alchimix. Si, à l'entour de la table, alors tout le monde va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, alors le suivant, s'il a la carte en main, il est obligé de la jouer. Ce n'est pas un choix, il est obligé de jouer. Là où il décide ce qu'il va faire, c'est que soit il va dire non, c'est moi Alchimix, et donc il va prendre le pouvoir qui est situé en haut de la carte. En espérant que personne d'autre alentour de la table pose également la carte et dise non, 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 c'est moi, et prenne le pouvoir qui est en haut. N'importe qui décide, et c'est là la subtilité du jeu, parce que dans un jeu de levée, tu gagnes la main ou tu ne la gagnes pas. Dans celui-là, la subtilité, c'est que tu peux ne pas gagner la main, c'est-à-dire tu as la carte alchimique en main, tu es deuxième, troisième ou quatrième à jouer, tu la poses sur la table et tu dis « Non, je ne suis pas Alchimix, qu'il en soit ainsi, et tu prends la faveur de la carte. » Alors, c'est une version, si tu veux, diluée du pouvoir. Donc, c'est quelque chose, ça te rapporte un peu moins, mais tu ne prends pas le risque que quelqu'un la pose après toi, prenne tout le pouvoir et que tu restes avec absolument rien. Donc, par exemple, si on prend Alchimix, ça dit que si tu payes une goutte ou un ingrédient, tu reçois 5 or. Alors, celui qui sera Alchimix à la fin de la manche, c'est ce qu'il aura. Mais si tu as eu peur, tu n'es pas sûr, tu penses que ton voisin, comme c'est le cas avec toi, avait la même carte en main, tu décides, eh bien, tu dis qu'il en soit ainsi. Et pour le même ingrédient, mais tu vas récolter 2 or. Mais ça, tu en es assuré. Alors que si tu prends le risque, tu risques de tout perdre.
Et donc, tu avais mis Alchimix à ma place, enfin en premier, et puis j'arrive en disant « Je suis Alchimix ». Mais qu'est-ce qui arrive à ton Alchimix à toi?
Alors, j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. La seule façon, si t'es la première à jouer et de réaliser le pouvoir, c'est que si personne d'autre alentour de la table ne l'a, ou si tous les autres qui l'ont alentour de la table ont peur que la personne suivante ou les personnes suivantes puissent jouer par-dessus et décident d'utiliser la faveur et de dire qu'il en soit ainsi. Alors, ça arrive souvent. La première personne va jouer Alchimix. La deuxième, là, va dire qu'il en soit ainsi. La deuxième, là, pas. La troisième va dire, si l'autre, là, j'ai tout perdu. Il le prend et finalement, tu te retrouves avec la possibilité de jouer ta première carte. Ce qui est très important quand on joue à Malédiction, et je pense que c'est là que prend toute la saveur du jeu, c'est que devant chaque joueur, ce qu'il y a de visible pour tout le monde, c'est le nombre d'ingrédients et le nombre de pièces d'or. Ce qui demeure caché, c'est les points de victoire qui sont accumulés, et on peut aussi garder caché les petites éprouvettes. Donc, au moment où on sélectionne les cartes qu'on va jouer pour la manche, on est en mesure de regarder ce que chacun des joueurs a devant soi et ce qu'il pourra faire ce tour-ci. Donc, par exemple, un joueur qui a devant lui 5 ingrédients verts, 5 gouttes vertes, la probabilité que dans sa main, il choisisse de jouer avec herbicide sont très faibles. Donc, je sais que si... Et ainsi de suite. Donc, il faut analyser ce que les gens ont devant soi pour essayer de déterminer ce qu'ils vont essayer d'aller chercher dans la prochaine manche, soit les bloquer en choisissant la même carte, ou soit en choisissant de jouer complètement autre chose pour aller chercher des points à soi. Et donc, il y a deux subtilités dans le jeu. La première, c'est que il y a une levée, mais il y a aussi une levée moins... qui te rapporte des points pareils. Une sous-levée, appelons ça comme ça. Et il y a la possibilité aussi de construire le jeu avec lequel tu te retrouves à la table pour jouer à un jeu de levée, ce qui, à mon avis, en tout cas de mémoire, j'en connais pas. Quand tu joues au bridge, on te passe des cartes, tu fais le mieux avec ce que tu peux. Quand tu joues à majorité, les jeux de cartes, on te passe un certain nombre de cartes et puis tu fais le mieux que tu fais la meilleure main que tu peux avec les cartes que tu as. Dans ce cas-ci, tu vas les choisir. Et tu vas les choisir en sachant ce que les autres sont un peu en train d'essayer de faire.
Ok, mais donc, de prime abord, on aurait peut-être tendance à se dire, bah, c'est simple, on va faire une levée simple en se disant, bah, je suis alchimix ou je suis le fameux Bourtax, et on pourrait réagir très simplement en disant, non c'est moi, on a fait le tour de la table, et finalement, bah, c'est le dernier, et ça devient finalement, on peut voir ce jeu-là comme étant très linéaire, or, c'est pas du tout l'idée.
Ah non, pas du tout. En fait, si on joue comme ça, ce jeu-là est franchement plate. Parce que ça ne va que ce que tu as choisi dans la main, ton tour de jeu, et puis c'est le dernier qui l'a qui gagne. Ça a vraiment aucun intérêt. Le jeu, c'est soit de bloquer en choisissant le personnage, soit de choisir le second ou la faveur ou le second rôle, si tu veux, en disant qu'il en soit ainsi, pour récolter un peu quelque chose pareil. Et de pouvoir construire sa main en fonction de ce qu'on pense que les autres essaient de faire. Donc, il y a plusieurs subtilités quand même dans le jeu. Ça semble... C'est vrai que si on joue avec ben, « moi je l'ai », « oh ben tant pis », c'est très moche.
Ça ne marche pas.
Oui.
OK, quand est-ce que le jeu se termine?
Dès qu'il y a quatre corbeaux sur la table, parce que il y a des parmi les cartes où l'on ramasse des points, il y a certaines cartes qui sont illustrées d'un corbeau noir. Dès que quatre personnes ont, c'est-à-dire pas que quatre personnes, dès qu'il y a quatre corbeaux visibles sur la table, la partie, la manche se termine, le tour se termine et c'est la fin de la partie. Donc la fin de la partie est aussi jamais la même. En fait, on peut la prévoir, on sait qu'il restera une manche ou deux, mais des fois, ça se termine très vite, des fois, c'est très long. Ben, très long. C'est jamais très long, mais disons, c'est plus long qu'on le croyait. C'est pas un nombre de tours défini, c'est ce que je veux dire.
Quelle est l'histoire de ce jeu-là? Pourquoi est-ce qu'il a été édité chez Philosophia? Et pourquoi est-ce qu'il est rentré dans cette logique qui est, bon, on en a parlé sur le podcast précédent, c'est des jeux qui vous font plaisir, que vous trouvez beaux, mais aussi qui mènent à... qu'on doit rejouer pour y prendre du plaisir. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où on joue une fois, on va le remettre sur son étagère. Pourquoi est-ce que ce jeu-là est justement rentré dans ce critère-là?
Bon. Premièrement, il y a un lien, il y a un partenariat avec Aléa en arrière de ça. Et donc, nous, ce qu'on souhaitait, c'était que les jeux de la gamme Aléa soient disponibles en France. Premièrement. Donc, il y a ce choix-là de perpétuer cette collection-là, premièrement. Deuxièmement, quand on a reçu le jeu Malédiction, je dois avouer qu'au départ, on était surpris parce que ce jeu-là n'est pas un jeu qu'on pourrait dire... comment je pourrais expliquer ça? Taillé sur mesure, disons, pour être un jeu de la collection Aléa. Nous, on trouvait que c'était plutôt un jeu famille. Et quand j'ai fait le commentaire à Stéphane Brook, qui est le réalisateur de cette collection-là chez Aléa, et il m'a dit « oui, c'est vrai, mais on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus convivial, d'un peu plus où les gens échangent et où il y a une atmosphère ». Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce jeu-là. Parce que, bon, il aurait pu très bien aussi cadrer sous le label de Ravensburger, qui est la compagnie mère de Aléa. Mais bon, alors, outre la surprise, on y a joué. On y a joué, et on y a rejoué, et on y a rejoué encore. Alors, on a dit, bon, ben, il y a quelque chose là-dedans. Au début, on comprenait pas trop. Un jeu de levée, oui, mais finalement, c'est un jeu de levée. Mais en plus, il y a de l'ambiance dedans. Et ce qui fait que c'est pas nécessairement que celui qui gagne la main, donc gagne la levée, qui gagne quelque chose, mais il y a ceux aussi qui ont décidé de minimiser leur risque et de passer en second, qui vont quand même en tirer un certain bénéfice. Alors, il y a l'effet prendre à tout risque, qui a un coût, ou je joue de façon un petit peu plus prudente, pardon, et je vais quand même... essayer de tirer mon épingle du jeu.
C'est une boîte qui n'est pas énorme. Hein?
C'est le format Louis XIV. Et en fait, elle a ce format-là, tiens, c'est un commentaire qui m'intéresse à développer. Cette boîte-là a ce format-là pour une simple et unique raison. Et c'est une raison éditoriale. Et c'est que cette boîte, ce jeu-là aurait dû aller dans le format San Juan. Aléa ou Ravensburger, plutôt, ayant éliminé le format San Juan, il n'y aura plus jamais de jeu Aléa dans le format San Juan. Alors, le jeu n'avait que de possibilités que d'aller dans ce format-là. Et donc, on m'a fait quelquefois le commentaire, il me semble que la boîte est vide, ou il me semble qu'il y a peu de matériel pour une si grande boîte. Ben, vous avez raison. C'est tout à fait vrai. Et c'est une décision, malheureusement, avec laquelle on a dû vivre. On a dû accepter, c'est tout.
Parce que, donc fondamentalement, le jeu tiendrait dans une boîte de filou.
Ah oui, mais filou n'est pas un format qui appartient à Léa, quand même.
Ouais. Non, mais c'est ça qui est intéressant comme distinction, justement. C'est que c'est pas simplement une illusion. Allez, on pourrait se dire, ben, quelle idée de mettre une boîte comme ça. Il y a une raison.
Oui, il y a un effet de collection, il y a un effet de grand regroupement. Parce que, tu sais, à la limite, si tu enlevais tous les traits et tous les plastiques et de ce qu'il y a dans les boîtes, je te jure que j'ai réussi à mettre 5 jeux dans la même boîte, moi. C'est des jeux tout le monde et on le fait tous les ans quand on revient d'SN. On a toujours trop de jeux. On vire des boîtes et on met 5-6 jeux dans la même boîte pour réussir à tout rentrer dans la valise. Mais bon, après, il y a toute la question marketing, de l'espace visuel que ça prend sur la tablette, etc. etc. Et donc, comme traducteur, on doit respecter ces choix-là.
Quel est ton sentiment par rapport au fait qu'on dit que finalement, il n'y a pas beaucoup de matériel et que le jeu a un certain prix?
Que le jeu est cher, tu veux dire. Oui, effectivement, on m'a fait le commentaire souvent et je l'ai dit très sincèrement, je suis plutôt d'accord avec les joueurs. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on agit comme traducteur, la décision à l'origine du jeu et le prix du jeu et le prix de fabrication du jeu, et etc., on ne le détermine pas, on le subit. Et donc, c'est une discussion perpétuelle que nous avons avec les gens de chez Ravensburger à l'effet que leurs jeux sont dispendieux et qu'une fois les royautés, etc., additionnées, il y a souvent un très grand écart entre le prix de la version française et le prix de la version allemande. Ce n'est pas parce que Philosophia veut, on dit ça ici, on dit ambitionner sur le monde, ça veut dire prendre avantage. Bon, j'ai lu toutes sortes d'affaires gentilles et moins gentilles de termes, mais bon, c'est pas ça du tout. C'est une règle de commerce qu'on se fait imposer. Ensuite, la décision que nous avons, c'est publier ou ne pas publier. Et c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Je savais, quand ce jeu-là allait sortir, qu'il allait être dispendieux. Peut-être qu'on aurait dû ne pas le publier. Mais quand on prend le nombre quand on regarde les nombres de bons commentaires et le nombre de mauvais, on se dit, ben finalement, on a fait une bonne chose. Il y a plus de gens qui apprécient que de gens qui le refusent. Puis au bout du compte, là, s'il y a des joueurs, s'il y a des gens qui trouvent que le jeu est trop cher pour ce que c'est, ils font chier. C'est eux qui ont la décision finale entre les mains. C'est pas moi. C'est pas nous.
Et justement, dans un exercice où on voudrait finalement répondre à non seulement faire des jeux d'une certaine qualité, avec des illustrations, avec un nombre de cartes et du matériel, mais en même temps, de se dire, j'ai pas envie qu'il soit aussi cher, y a une solution ou pas? Ou il y a des solutions?
Oui, la solution, c'est de ne pas le publier.
Oui, là, c'est oui ou non, mais je veux dire...
Il n'y a pas d'autre chose. Quand nous, on fait le jeu en version originale, par exemple, quand on a fait Chinatown, il n'y a pas personne qui est venu me dire qu'il n'en avait pas eu pour son argent niveau matériel. On a vraiment, et ça, je peux le dire sans me gêner, on a vraiment mis du matériel de première qualité dans la boîte. plateau, tuiles, épaisseur de tuiles, pièces de bois, format de plateau. Hein. C'est fait pour plaisir. Mais on a réussi à garder, le contenu, le format et tout, on a réussi à garder un prix très raisonnable. Il se vend à 39,90 €. Ça, quand on est éditeur et quand on choisit le matériel et le format et tout, on peut décider de faire des compromis pour qu'il soit moins cher. J'aurais pu décider, non, c'est pas possible. Tiens, on va couper on va mettre du plastique au lieu du bois, on va mettre du carton au lieu des cartes, Et là, on fait des compromis, on arrive à quelque chose de moins cher, mais on arrive à quelque chose de moindre qualité. Quand on est assis dans la chaise du traducteur, c'est simple, c'est un take it or leave it. Et donc, on doit prendre cette décision-là. Est-ce que le jeu en vaut la peine? Est-ce qu'on pense que ça va plaire à suffisamment de personnes? Si la réponse est oui, bien, on le fait. Si on pense que non, bien, on passe. Dans ce cas-là, j'ai pensé que oui. L'avenir me dira si j'avais tort. L'avenir me dira, mais moi, je suis confiante. À date, le feedback que j'ai eu, à part le prix, ça, c'est le feedback négatif qu'on a reçu. Mais sinon, le feedback en termes de jeu est excellent. Vraiment, on a une très bonne cote. Et j'ai même des collègues éditeurs qui ont joué puis qui m'ont dit qu'ils avaient passé un très bon moment. Donc, ça fait plaisir.
Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Sophie.
Mais comme d'habitude, ça me fait plaisir.
Et on se retrouve peut-être pour un autre jeu un peu plus tard. Alors.
Voilà. Avec plaisir.
Merci beaucoup. Bonne soirée.